France Musique.
Anna Pavlova ou la mort du cygne. Elle parlait avec son corps. Je ne peux trouver les mots pour décrire tout le raffinement de ses expressions, cette perfection irréprochable, cette beauté qui surpasse tout. C'était si émouvant qu'on avait l'impression d'avoir le cœur arraché avec douceur. Une sorte de douleur exquise. Ainsi Rudolf Nureyev évoquait la Pavlova. Anna Pavlova découvre à l'âge de 7 ans le ballet de La Belle au bois dormant, chorégraphié par Marius Petipas. Sa mère, une pauvre blanchisseuse abandonnée par son mari, a réussi à économiser rouble après rouble pour acheter 2 billets au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Pour la petite fille, c'est la révélation soudaine d'une vocation. Le spectacle la fascine, sa passion pour le ballet est née. Malgré sa silhouette maigre et gracile, Anna se présente à l'âge de 9 ans à l'école impériale de danse de Saint-Pétersbourg, financée par le tsar. Trop jeune et trop frêle, elle est d'abord refusée, mais l'année suivante, elle s'y distingue, à force de volonté. Car dans les années 1890, la tendance est aux ballerines grassouillettes et solides sur leurs jambes, dans le style de celles que peint Degas. C'est grâce au conseil de Pavel Gertz, son maître de ballet, qu'Anna Pavlova persévère et comprend que réussir, c'est transformer une faiblesse en force. « Il n'y a pas de physique idéale pour les danseuses », nous dit la ballerine Tamara Karsavina. Ce sont les défauts qui font les grandes ballerines. Pavlova avait beau se forcer à manger et à ingurgiter des litres d'huile de foie de morue, elle restait frêle. Par son apparence fragile, qu'en 1895 on jugeait maladive, elle renouait avec la tradition romantique du milieu du siècle. Ses premières années d'entraînement sont difficiles. Ses camarades se moquent de ses pieds arqués et de ses jambes fines. Anna ne se laisse pas décourager et à l'âge de 10 ans, elle apparaît dans le ballet de Petipas, un conte de fées. Anna achève sa formation en 1899 et entre au ballet impérial en tant que coryphée, un cran au-dessus du corps de ballet. Dès ses premières représentations dans les dryades prétendues de Pavel Gertz, les critiques saluent sa performance. Son style est parfois peu académique et ses chevilles faibles lui causent des difficultés. Mais elle danse avec enthousiasme, passion et énergie. Son talent lui permet dès lors de s'élever rapidement et de devenir l'une des favorites de Petipas. En 1901, Anna remplace la danseuse Mathilde Kleczynskaya sur scène dans la Bayadère. Le public et les critiques acclament sa performance. Elle est nommée danseuse en 1902, première danseuse en 1905 et enfin danseuse étoile en 1906. Dès 1905, le célèbre chorégraphe Michel Fokine crée pour elle un ballet devenu mythique, La mort du cygne, d'après le cygne tiré du Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Tout commença lors d'une répétition de l'année 1905. Le maître fut inspiré par la visite que lui avait rendue Isadora Duncan quelques mois auparavant. Fokine et la Pavlova se comprennent. En quelques mots et gestes, il lui explique sa représentation du cygne. Confiante dans leur rapport intuitif, elle imagine alors une série de mouvements et propose de modifier les bras indiqués. Michael Fokine impose une longue succession de pattes bourrées pour simuler le glissement de l'oiseau. Les bras doivent alors exprimer l'incapacité du cygne à s'élever au-dessus du lac. Pièce chorégraphique sur un argument simple, la mort du cygne, évoque les derniers moments d'un cygne. Elle semble une improvisation de l'agonie gracieuse. Le rythme irrégulier du piétinement des pointes est soumis à l'inquiétude de l'animal. Le mouvement ondulatoire des bras se raidit parfois, comme soumis au réflexe de défense de l'oiseau. Le buste ploie sur le modèle des coudes arrondis ou du poignet délicatement brisé. Baxt imagine alors un costume de rêve, composé d'un tutu court, en tulle plumetis garni de véritables plumes de cygne superposées et de duvel en colure. Ce ballet langoureux, tout en ondulation des bras, impulsé d'un poids bien précis de la colonne vertébrale entre les omoplates, ne présente en apparence aucune difficulté technique. Tout est dansé sur les pointes emmenées. La difficulté est ailleurs. Elle met en jeu les qualités émotionnelles de l'artiste, sa maturité en tant qu'être humain et sa prescience de la mort. La mort du cygne est pour Fokine l'expression d'une danse libre, telle que celle qu'il découvre avec Isadora Duncan. Un ballet où l'académisme rend, avec élégance et dignité, son dernier soupir. Dès 1907, Anna Pavlova participe avec quelques danseurs du théâtre Mariinsky à une première tournée qui l'emmène à Stockholm, Copenhague et Riga. En 1908, elle quitte à nouveau Moscou pour se produire à Prague, Leipzig et Vienne. Sa carrière rime désormais avec voyage. En 1909, elle rejoint la nouvelle troupe des ballets russes de Sergueï Diaghilev. Elle partage ainsi le succès d'Adolphe Bolm, Tamara Karsavina, Ida Rubinstein, Alexandre Volynin et Václav Nijinsky, figure masculine de la troupe. Elle apparaît avec lui dans le pavillon d'Armide ou les Sylphides. Mais elle ne prend pas vraiment part au mouvement novateur que représentent les ballets russes. En effet, bien des points l'opposaient à Sergueï Diaghilev. D'une part, il s'adressait à l'intelligentsia de Paris, de Londres, de Monte-Carlo, tandis qu'elle se donnait pour mission de porter l'art de la danse autour du monde. D'autre part, elle fut toujours indifférente, sinon hostile, aux tendances modernes qui l'encourageaient. Admirant pourtant le génie de Pablo Picasso et Mikhail Fokine, Anna Pavlova demeure avant tout une danseuse au style très académique, qui n'affectionne que les musiques dansantes de César et Pougny, Ludwig Minkus, Frédéric Chopin ou Piotr Ilitch Tchaïkovski. Maria Goshkova, danseuse du corps de ballet en 1910, se souvient d'elle. Une jeune fille très maigre, d'une taille au-dessus de la moyenne, un sourire charmant, des yeux beaux, un peu tristes. Elle avait la jambe longue, effilée, extrêmement belle, et le coup de pied extraordinairement cambré. Toute sa personnalité était gracieuse, frêle, éthérée, comme si elle aspirait à se détacher de la terre. En 1910, Anna Pavlova se rend pour la première fois aux États-Unis. Elle découvre également Londres, elle y achète une maison où la rejoint son fidèle admirateur et amant Victor Dandré, qui fuit son pays où il est poursuivi pour une affaire de fraude. Il devient son manager, puis l'époux, dont elle n'a jamais voulu prendre le nom. À l'aube de la Première Guerre mondiale, en 1913, la danseuse quitte le Mariinsky et la Russie après une dernière apparition sur la scène de Moscou dans la Bayadère. Le conflit, puis la révolution russe et ses tournées l'éloignent inévitablement de sa patrie. Désormais, son port d'attache sera londonien, dans les quartiers de Hampstead. Elle viendra se reposer entre ses tournées dans la maison où elle se sent si bien, Ivy House. Elle profitera de son immense jardin où un étang accueille ses chers cygnes. En 1911, elle refuse de danser l'oiseau de feu. Elle n'apprécie pas la musique d'avant-garde d'Igor Stravinsky. Et c'est Tamara Karsavina qui la remplace. L'une des plus charismatiques représentantes des ballets russes s'affranchit dès lors de la troupe et crée sa propre compagnie afin d'assouvir son besoin d'indépendance artistique, de liberté. Pour se soustraire à l'autorité du directeur des ballets russes, l'oiseau fragile se fait de feu. La troupe d'Anna Pavlova était initialement formée de danseurs et de danseuses russes et polonais. Peu à peu, de jeunes talents anglais la rejoignent. À l'ardeur et à la passion slave se mêle la rigueur britannique. Les tournées se succèdent alors. La compagnie Pavlova parcourt sans relâche le monde, notamment le continent américain jusqu'en 1925, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Anna Pavlova porte le ballet jusque dans les endroits les plus reculés et sur les scènes les plus improbables. Tout comme les ballets russes furent la première troupe de danse à effectuer des tournées internationales, Pavlova est la première ballerine à le faire avec sa propre compagnie. Pendant la saison d'hiver de 1931, à l'aube d'une nouvelle tournée aux Pays-Bas, la danseuse prend froid dans un train et contracte une pleurésie qui l'oblige à choisir entre mettre un terme à sa carrière ou mourir. Mais elle ne peut se résoudre à ne plus danser. Elle meurt le 23 janvier à l'hôtel des Indes à La Haye. On raconte que durant son agonie, elle demanda qu'on lui prépare son costume du cygne et que l'on joue la dernière mesure, tout doucement.
À réécouter sur francemusique.fr.